assure santé adaptées à leur secteur d'activité et ses obligations et ont accès à des ateliers de prévention sur mesure. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Souscription, informations et conditions sur aesio.fr ou auprès de nos conseillers. Europe 1 soir,
19h-21h,
Pierre de Villeneuve.
Jusqu'à 21h, toute l'actualité de la journée décryptée, précisée avec nos invités, avec nos chroniqueurs sur Europe 1. Dans un instant, Nicolas Bourès, directeur d'école en Seine-Saint-Denis, il a peur de retourner dans son établissement, ça sera juste après votre journal. Bonsoir Maël Hassani.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Il est 20h sur Europe 1, merci d'être avec nous dans Europe 1 soir. Et à la une de votre journal, encore une université parisienne bloquée par des militants pro-palestiniens.
Après Sciences Po la semaine dernière, c'est la Sorbonne qui a été brièvement occupée aujourd'hui par plusieurs dizaines de militants. Les forces de l'ordre ont pu les évacuer sans difficulté. Vous entendrez la réaction de la chef des députés LFI, Mathilde Panot, soutien assumé de ces actions coup de poing très controversées. La ville de Givors, dans le Rhône, se remet doucement de la soirée de violences urbaines qu'elle a vécue samedi. Deux voitures de la police municipale ont été incendiés, du mobilier urbain dégradé. Et le choc est tel que le maire, opposé au port d'armes pour les policiers de sa commune, a changé d'avis. Dans ce journal également, le début des consultations des forces politiques sur la violence des mineurs à Matignon. Et puis la composition du jury du Festival de Cannes est désormais connue et il y a des visages bien célèbres du cinéma français.
La tendance météo, Marlène Duret.
Alors de la pluie à l'ouest de la Bretagne et sur une bande centrale du pays, avant une petite évolution orageuse en fin de journée entre la vallée du Rhône, la Bourgogne, Franche-Comté et de France. Et puis on aura du temps sec et ensoleillé vers la plaine d'Alsace ou encore sur une partie de la façade ouest.
Le détail dans moins de 10 minutes. Le mouvement parti des États-Unis il y a plusieurs semaines s'installe donc progressivement en France.
Oui, après Sciences Po, il y a quelques jours, la Sorbonne était bloquée aujourd'hui par des manifestants pro-palestiniens. À l'image de ce qu'il s'est passé outre-Atlantique, des tentes ont été installées à l'intérieur de la prestigieuse université parisienne. Les cours et les examens prévus cet après-midi ont été annulés avant une évacuation rapide des dizaines de militants par les forces de l'ordre. Mathilde Panot, la chef des députés LFI, crie une nouvelle fois à la dérive autoritaire et défend les organisateurs des blocages.
À chaque fois que des voix essayent de s'élever pour porter la question de la paix, soit le gouvernement répond par une répression alors que la jeunesse essaie justement de porter la voix de la liberté, de la paix et du droit international, ou alors elle répond par des apologies du terrorisme, elle répond par des annulations de conférences, elle répond par des condamnations à un an de prison avec sursis pour un tract sur la Palestine. Et la dérive autoritaire que nous dénonçons depuis des années sur la question est une dérive qui est extrêmement grave et qui nous inquiète et donc qui vise à une seule chose, à faire taire les voix pour la paix.
Mathilde Panot, la chef des députés LFI au micro européen d'Alexis de la Fontaine. Et après les blocages organisés à Sciences Po Paris la semaine dernière, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, annonce qu'elle va suspendre tous les financements de la région destinés au prestigieux institut d'études politiques tant que la sérénité et la sécurité ne seront pas rétablies sur place. L'ancienne candidate LR à la présidentielle pointe notamment, je cite, une minorité de radicalisés appelant à la haine antisémite et instrumentalisée par la France insoumise et ses alliés islamo-gauchistes. Gérard Depardieu est sorti de garde à vue en début de soirée à Paris. L'acteur de 75 ans était interrogé dans le cadre de deux enquêtes pour agression sexuelle ouvertes contre lui. L'une des plaignantes est une ancienne assistante de tournage. Elle rapporte des faits qui se seraient produits en 2014. L'autre est une décoratrice. Elle dénonce une agression sexuelle lors du tournage du film Les Volets Verts en 2021. Gérard Depardieu sera jugé en octobre 2024 devant le tribunal correctionnel.
Quand un élu d'hiver gauche idéologiquement opposé à l'armement des policiers change d'avis après une soirée de violences urbaines.
Ça se passe à Givors, au sud de Lyon. Le maire, Mohamed Boudjelaba, réfléchit très sérieusement à mieux équiper sa police municipale après plusieurs incidents en l'espace de quelques jours. Jean-Luc Boujon, vous êtes à Givors pour Europe 1. Les dernières violences en date, particulièrement choquantes, ont été commises samedi soir.
Oui, une nuit de violence assez hallucinante avec cet incendie dans l'enceinte de la mairie de deux voitures de la police municipale. Les véhicules ont été évacués ce matin, mais cet après-midi, on voit encore les traces de ce feu violent, mur carbonisé, bitume calciné, qui s'est déclenché samedi vers 22h. Monique habite juste en face de l'hôtel de ville.
On a tout vu ce qui s'est passé, l'explosion des voitures, les jeunes qui sont venus caillasser la mairie. Ah oui, on a tout vu. Mais de nuit, on ne voit pas qui c'est. Ils ont tous des capuches. Ça explosait dans tous les sens. Hein. On a même cru que la mairie, elle allait brûler. Hein.
Un incendie qui est peut-être en fait une action de représailles puisque samedi après-midi, 5 mineurs âgés de 12 à 16 ans soupçonnés de violence sur un autre adolescent avaient été arrêtés par la police, ce que confirme Alexia, une lycéenne.
C'est des représailles. Ils ont embarqué un de leurs copains et...
Et du coup, ils ont voulu se venger ?
C'est ça.
C'est grave quand même.
Bah oui. Surtout que s'ils ont été arrêtés, c'est pas pour rien. Ils font pitié un peu. Hein. Non, mais c'est vrai. Enfin, je sais pas. Ils trouvent toujours une excuse pour faire des trucs, quoi.
Ouais, voilà, pour casser quelque chose.
Surtout qu'il y a une famille qui habite en haut, donc si l'appart aurait pris feu, ça aurait pu avoir plus de conséquences. Ils réfléchissent pas.
Givor, une ville où un climat délétère s'est installé depuis quelques temps, déplore Christiane, une habitante.
Il y a de plus en plus d'insécurité à Givor. Les jeunes, ils font n'importe quoi à Givor. Ça craint plus. C'est pas très bien fréquenté.
À cette heure, les auteurs de l'incendie sont toujours recherchés par la police.
Jean-Luc Bougeon, correspondant d'Europe 1 dans le Rhône. Le jeune de 15 ans, soupçonné d'avoir tué à l'arme blanche Mathis, un ado du même âge à Châteauroux samedi soir, a été présenté à un juge aujourd'hui aux côtés de sa mère, également impliquée dans des faits de violence sur la victime. Le suspect d'origine afghane avait été interpellé à deux reprises au cours des dernières semaines. Il était placé sous contrôle judiciaire, pas plus tard que la semaine dernière.
Il s'agit donc d'un nouveau drame impliquant des mineurs après d'autres agressions marquantes au cours des dernières semaines.
Et c'est aujourd'hui que Gabriel Attal a lancé ses consultations des groupes politiques au sujet de cette ultra-violence chez les plus jeunes. Mathilde Panot, Emmanuel Bompard, deux cadres de la France Insoumise, ont été reçus en premier par le chef du gouvernement avant les patrons des parlementaires de la majorité. Arthur Delaborde, avec ses rendez-vous, Gabriel Attal amorce la réponse de l'exécutif face à ce phénomène particulièrement inquiétant.
C'est en effet le début de deux mois de concertation qui doivent permettre de mener à bien un chantier colossal pour faire face à l'addiction de la violence d'une partie de la jeunesse, comme l'avait expliqué le Premier ministre il y a 10 jours dans son discours prononcé à Viry-Châtillon. Gabriel Attal met sur la table des propositions plus ou moins concrètes, à commencer par le retrait de points sur le brevet ou le bac pour les élèves les plus perturbateurs. Il veut aussi instaurer un conseil de discipline dès le primaire, imposer des travaux d'intérêt général aux parents défaillants ou encore faire signer un contrat avec l'établissement scolaire qui pourrait conduire à une amende en cas de non-respect des obligations. Sur le volet pénal, Gabriel Attal plaide pour de nouvelles peines pour les mineurs, des comparutions immédiates dès 16 ans et se dit prêt à ouvrir le débat sur des atténuations à l'excuse de minorité. Toutes ces pistes doivent maintenant être débattues, amendées, voire même invalidées lors des discussions qui vont se dérouler lors des 8 prochaines semaines avec tous les acteurs et les responsables politiques.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. La France Insoumise et le Rassemblement National mettent la pression sur l'exécutif. Les groupes des deux partis à l'Assemblée exigent qu'un projet de loi de finances rectificative soit soumis au vote du Parlement d'ici un mois pour les uns et 30 jours pour les autres. Dans le cas contraire, chacun promet de déposer une motion de censure contre le gouvernement. Menace formulée à l'issue d'un débat d'orientation budgétaire sans vote organisé au Palais Bourbon, quelques jours après le maintien de la note de la France par les agences de notation Fitch et Moody's. 40 jours de cessez-le-feu à Gaza et la libération de milliers de prisonniers palestiniens en échange de la libération d'otages israéliens. C'est le contenu de la proposition de trêve des combats envoyée au Hamas, selon la diplomatie britannique. Une réponse pourrait être donnée aujourd'hui par le mouvement terroriste, dont une délégation devait se rendre en Égypte aujourd'hui.
Dans l'actualité également, 8 figures du cinéma auront la lourde tâche de départager les 22 films en compétition lors du prochain festival de Cannes.
On connaissait déjà la présidente du jury de cette 77e édition, Greta Gerwig, l'américaine, réalisatrice du film Barbie, et les noms des autres membres du jury ont été dévoilés aujourd'hui, 2 semaines avant leur arrivée sur la croisette. Et Marie Jiquel, des stars françaises font partie du casting.
Oui, on sent que le festival, taxé de valoriser des stars américaines, a choisi aussi des figures du cinéma tricolore, mais qui restent très identifiées à Hollywood. Omar Sy, l'une des personnalités préférées des Français, le Arsène Lupin de la série Netflix qui avait cartonné dans le monde entier, l'actrice Eva Green, éblouissante Milady dans Les Trois Mousquetaires, mais connue à l'international aussi pour son rôle dans les James Bond avec Daniel Craig. Dans ce jury également, l'actrice amérindienne Lily Gladstone qui avait crevé l'écran l'année dernière à Cannes dans Killers of the Flower Moon. Et puis s'ajoute à cette liste d'autres habitués du Festival de Cannes comme le réalisateur japonais Kore Eda. Un jury au complet, 4 femmes et 4 hommes autour de Greta Gerwig qui devront départager les 22 films en compétition. Des noms qui rejoignent un tapis rouge impressionnant cette année. On pourra y voir le créateur de Star Wars, George Lucas, qui recevra une palme d'or d'honneur, mais aussi Francis Ford Coppola en quête d'une 3e palme pour Mégalopolis. Top départ le mardi mardi 14 mai avec en film d'ouverture un autre Français, Quentin Dupieux, qui présentera sa nouvelle comédie.
Marie Jiquel, spécialiste culture à la rédaction d'Europe 1.
Merci Maëlle Assani pour le journal de 20h. La météo, Marlène Duret, hormis quelques régions sous le soleil, un parapluie sera bien utile demain.
C'est vrai que tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne. Alors les régions où on pourra profiter du soleil, près de la Manche, à l'ouest des Hauts-de-France, jusqu'à la Normandie, en continuant vers l'Anjou, le Poitou, l'Aquitaine, en Alsace aussi. Du temps sec sur l'est de la Provence en plaine, mais bon, la pluie arrivera plus tard, mercredi. Et puis en Corse, le soleil sera un peu voilé en raison des remontées de poussière de sable en provenance du Sahara. Sur tout le reste du territoire, nuages majoritaires, des petites averses ou de bonnes salves de pluie. Allez, zoomons là où il pleuvra le plus.
Zoomons.
Languedoc-Roussillon, Aveyron, Tarn, plutôt le matin. La Bretagne, vraiment sur la pointe bretonne. Voilà, puis ça peut tourner un petit peu à l'orage quand même entre la vallée du Rhône et la Bourgogne-Franche-Comté.
Les températures, elles ne bougent pas jusqu'à mercredi.
Oui, elles vont effectivement baisser à partir de mercredi, surtout dans le sud-ouest. Elles vont remonter à partir de vendredi pour atteindre lundi une moyenne de 20-21 degrés en journée. Mais d'ici là, prévoyez pour demain après-midi 13 degrés à Brest, 17 à Clermont-Ferrand, Perpignan, au Sable-d'Olonne également, 19 à Paris, à Laval, à Lons-le-Saunier, à Toulouse, à Marseille, 10 degrés à Azay-le-Rideau, 21 à Reims, 24 à Nancy et jusqu'à 26 à Strasbourg.
Merci Marlène Duret. Au programme de l'heure qui vient, eh bien dans un instant, Nicolas Bourrez est directeur d'école, il a la peur au ventre, il n'a pas envie de retourner, il n'est pas retourné travailler aujourd'hui parce qu'il est ciblé par des menaces directes sur lui, sur son école, sur ce qu'il représente, le plus beau métier du monde, comme on le dit, celui d'enseignant et donc de directeur d'école. Et puis tout à l'heure, je recevrai deux auteurs, Dora Mouto et Marguerite Stern, elles signent Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre. Je peux vous dire que c'est un livre qu'on ne sort pas indemne, en gros, hein, quand on le lit. Et ça, évidemment, interpelle beaucoup de gens qui ont des idées, qui après reviennent sur ces idées, mais quand le mal est fait, eh bien le mal est fait. 20h11, vous êtes sur Europe 1, c'est Europe 1 soir jusqu'à 21h. On revient dans un instant, à tout de suite.
C'est Elisabeth Assayag.
Europe 1, la France bouge.
À quelques semaines des Jeux d'été, comment se préparent les entreprises locales au savoir-faire français? Pour cette sixième étape de la saison avec les chambres de commerce et d'industrie, nous serons demain à Anglette, près de Bayonne. J'accueillerai trois start-up locales autour d'Alain Di Crescenzo, le président de CCI France, qui endossera le rôle du coach.
La France bouge, émission spéciale depuis Anglette, dans les Pyrénées-Atlantiques, avec la CCI.
Alors, rendez-vous demain, nouvel horaire, la France bouge, 21h, 22h sur Europe 1.
Hey, les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige. L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
Entre passé et présent, héritage culturel et création contemporaine, l'artiste Jiang Chong-er réinterprète les traditions chinoises millénaires au musée Guimet. Des installations monumentales et spectaculaires, une réflexion visionnaire sur le temps, un parcours sensoriel et spirituel comme un pont entre la France et la Chine. Gardien du temps à découvrir dès maintenant au musée Guimet avec Europe 1.
Europe 1 soir,
19h-21h, Pierre de Villeneau.
Journal permanent à 20h13 sur Europe 1. Gérard Depardieu sera jugé en octobre prochain pour agression sexuelle. D'après le parquet de Paris, à l'issue de sa garde à vue, l'acteur s'est vu remettre une convocation devant le tribunal correctionnel. Il était entendu dans le cadre de deux enquêtes pour agression sexuelle par deux femmes. Un jeune de 15 ans et sa mère, soupçonnés d'être liés à la mort du jeune Mathis tué à coups de couteau samedi à Châteauroux, ont été présentés cet après-midi à un juge au moment où le débat sur la violence d'une partie de la jeunesse bat son plein et où Gabriel Attal a justement interroger d'autres personnalités politiques, d'autres partis sur le sujet. Une trentaine de militants pro-palestiniens se sont introduits avec des tentes dans la Sorbonne. Aujourd'hui, pour l'occuper, ils ont été rapidement délogés par les forces de l'ordre. Des chants anti-Israël ont été scandés à l'intérieur, puis à l'extérieur de l'université. En tournée au Moyen-Orient après l'Arabie Saoudite, Anthony Blinken est attendu en Israël demain pour défendre une trêve à Gaza.
Europe 1 soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve.
Et nous sommes ensemble jusqu'à 21h sur Europe 1 pour Europe 1 Soir. Et je salue mes deux chroniqueurs. Bonsoir Naïma M. Fadel.
Bonsoir.
Ravi de vous recevoir ici sur le plateau d'Europe 1. Vous êtes essayiste. Bonsoir Joseph Massescaron.
Bonsoir.
J'ai lu nombre de vos livres. Je suis un peu impressionné de vous avoir en face de moi.
Voilà une chose.
Voilà. Et nous allons parler de l'actualité. Nous allons recevoir quelqu'un qui a la peur au ventre. Et ce monsieur est directeur d'école à Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis. Il a décidé de ne pas aller travailler et avant de l'inviter et de lui parler au téléphone, je vous propose d'écouter une partie de son enregistrement vidéo qu'il a publié sur les réseaux sociaux ce matin.
Nous sommes lundi matin et pourtant je n'irai pas travailler. Je n'irai pas dans l'école que je dirige depuis 15 ans. Je n'irai pas parce que je suis pris pour cible, parce que j'ai souhaité m'engager dans le projet ministériel porté par l'actuel Premier ministre d'expérimentation de la tenue commune. Un comité de défense de l'école publique à Neuilly-sur-Marne qui est farouchement opposé, me cible, m'insulte de la pire des façons, m'expose lâchement, dangereusement, en distribuant des tracts dans la cité, dans tout le quartier, des tracts qui me qualifient d'anti-musulman. On sait où ça a mené, on connaît déjà plusieurs histoires malheureuses, donc je ne veux pas aller travailler, je ne veux pas aller exposer mes élèves à des risques qui pourraient être immenses, qui pourraient être inconsidérés si je le faisais. Et puis je ne tiens pas non plus à m'exposer moi-même.
Bonsoir Nicolas Bourrez.
Oui, bonsoir.
Merci d'être en ligne avec nous. Alors cette vidéo, elle a été postée, j'imagine, ce matin de bonne heure, alors que vous deviez vous rendre dans votre école. Finalement, vous avez décidé de ne pas y aller. D'abord, est-ce que vous avez des regrets? Et surtout, comment est-ce que vous avez vécu cette journée de lundi sans aller dans votre école que vous aimez tant?
Alors, je n'ai pas de regrets. Je l'ai posté volontairement à l'horaire à laquelle j'arrive généralement à l'école, donc vers 8h-10, 8h-5. Et cette journée, bon, bien entendu, particulière pour moi. Mais j'espère que le premier objectif est atteint, c'est-à-dire que les élèves et mes collègues, les enseignants, ont pu travailler en toute sécurité aujourd'hui.
Oui. Est-ce que vous avez des retours sur la sécurité à l'école, justement, comment s'est passée cette journée, autrement ou de manière générale, comme d'habitude?
Aujourd'hui, j'ai très peu de retours parce que j'ai été énormément sollicité par des journalistes et donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour communiquer avec mon école. Mais a priori, il n'y a pas eu de problème de signal.
Tout commence par l'expérimentation de l'uniforme, en fait.
Tout à fait.
Et donc, vous avez voulu suivre cette expérimentation qui est en ce moment encore au stade embryonnaire. Et comment est-ce que se sont déroulées les différentes étapes de cette expérimentation jusqu'à cette situation qui devient insupportable, puisque vous en venez au fait de ne plus aller dans votre école?
Alors, pour le coup, l'expérimentation, elle n'a pas lieu encore. Là, c'était la phase de décision et elle est prévue, donc, puisque ça a été favorablement acté par le conseil d'école. Elle est prévue, donc l'expérimentation, à partir du mois de septembre, à partir de la rentrée.
Donc là, on en est au stade où on prend des décisions, et même à ce stade-là, donc c'est même plus embryonnaire, là, on en est vraiment au stade de l'invention de la chose, si j'allais dire. Et en fait, même à ce stade-là, vous retrouvez pris en tenaille avec des gens qui vous insultent, tout simplement.
Tout à fait, qui m'insultent et qui me mettent en danger surtout, parce qu'on sait très bien que extrémistes et obsession anti-musulman, c'est mettre une cible dans le dos de la personne qu'on affiche avec ces termes-là, quoi. Donc là, c'est extrêmement grave. La décision, elle a été actée majoritairement. On a concerté l'intégralité de la communauté éducative et a priori, un groupuscule, je ne sais pas qui se cache derrière, n'accepte pas la décision majoritaire.
Naïma M. Fadel, ça vous fait réagir?
Bah écoutez, oui, ça me fait réagir parce que je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Parce que pour rien vous cacher, je pense que c'est un directeur d'école primaire. Donc on est en école primaire. Et monsieur, je ne vois pas en quoi c'est anti-musulman que des enfants portent un uniforme. D'ailleurs, dans des pays musulmans, par exemple, c'est pas toujours l'uniforme, mais c'est par exemple la blouse. Donc je ne sais pas qui se cache en fait derrière ce collectif. Donc je m'interroge parce que quand il y a eu la circulaire contre la abaya en septembre 2023, la rentrée de septembre 2023, rappelons que la rentrée scolaire c'est 12 millions d'élèves. Hein. Vous avez seulement 298 élèves jeunes filles qui se sont présentées en abaya et seulement 67 qui ont refusé de la retirer. Donc moi je m'interroge sur ce collectif. Je trouve que c'est extrêmement grave parce que ce directeur, il ne fait que faire ce que demande la République, notamment notre gouvernement. Donc ça veut dire que certains osent menacer dans notre pays et je trouve ça extrêmement inquiétant. En tout cas, monsieur, vous avez tout mon soutien, si je peux me permettre. En tout cas, mon modeste soutien.
Merci beaucoup.
Nicolas Bourrez, sur ce que vient de dire Naïma, est-ce que vous avez essayé d'en savoir plus sur ce groupuscule, sur cette petite quantité de gens finalement qui essayent d'entraîner d'autres en fait sur ce problème?
Alors après, moi j'ai déposé plainte, donc du coup je ne peux pas trop parler de ça. J'ai donné quelques noms qui éventuellement pourront alimenter les investigations de la police, mais de manière tout à fait certaine, non, je ne peux pas dire qui se cache derrière ce groupuscule. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un projet qui est porté par le Premier ministre, qui a été également souhaité par le Président de la République. Nous, on est dans une école, donc on est là pour respecter les directives. Et voilà, quoi, c'est pas moi qui ai décidé, en fait. On a fait voter tout le monde.
Merci de votre témoignage, Nicolas Bourrez. Merci d'avoir été avec nous. Et encore une fois, au nom de toute la rédaction d'Europe 1, vous avez tout notre soutien. Joseph Massescaron, qu'est-ce que vous pensez de ce cas d'école, j'allais dire, sans de mauvais jeu de mots?
Cas d'école, oui. Je trouve que c'est révélateur au sens chimique du terme d'un grand nombre de dysfonctionnements et d'un grand nombre de problèmes. D'abord, un aparté sur le titre de ce fameux et fumeux collectif qui s'est autonommé Collectif de défense de l'école publique. Quand on dit, vous parlez qu'il s'agisse de défense de l'école publique, là, on est dans le langage orwellien. C'est le langage orwellien, je rappelle, 1984, c'est quand on donne l'inversion du réel, l'inversion de ce qui est. Là, évidemment, ils défendent tout, sauf, bien sûr, l'école publique, et ils se présentent comme collectif de défense de l'école publique. C'est révélateur, et c'est là où ça devrait justement donner une piste, parce qu'il y a une formation politique qui est devenu spécialiste de ce genre d'inversion justement des propos, c'est les personnes autour de la France insoumise. Ouais. Alors je ne dis pas que c'est la France insoumise, puisque tout de suite, voyant évidemment la part devant l'indignation publique et légitime par rapport au sort qui est fait à M. Bourré, Thomas Porte, qui est le député de cette circonscription, a fait machine arrière. Pardon. Ouais. Mais on voit bien ce type de méthode. Alors, ce type de méthode, ne nous trompons pas, ce n'est pas du tout un délire que de penser que on met en danger la vie d'une personne. Et je dis ça pas simplement parce qu'il y a eu le cas de tragique, terrible de Samuel Paty. Je dis ça parce qu'il faut bien reprendre il faut bien situer le contexte. Si le contexte, c'est Neuilly-sur-Marne. Oui. C'est une municipalité où il y a eu, je rappelle, en juillet dernier, des émeutes particulièrement violentes. Donc, qui n'ont pas été, le feu n'est pas éteint. Le feu n'est pas tout éteint. C'est un terreau de violence. Donc, on essaye là aussi d'exploiter un terreau de violence. Et quand je prends cette exploitation cynique du terreau de violence plus l'inversion des valeurs, à mon avis, c'est signé.
Mais tout à l'heure, on parlait de Sciences Po et on écoutait un jeune étudiant qui disait « Moi, j'aimerais bien bosser, j'aimerais bien avoir mon diplôme, etc. » Donc, en fait, on se retrouve dans une situation totalement cosmique où on a un directeur d'école qui a peur d'aller à son école, où on a un terreau, vous avez dit, de violence, où on a des élèves qui sont plus ou moins radicalisés, en tout cas entraînés par des mauvais garnements et qui, en gros, fichent la pagaille. Et puis, vous avez quand même accessoirement des élèves qui voudraient aller à l'école, apprendre à lire, à compter et éventuellement à devenir quelqu'un.
Tout à fait.
Naïma Mfadel.
J'allais revenir sur Sciences Po en vous disant que nous avons quand même des députés, des représentants de la République qui instrumentalisent tout ça. C'est ça, c'est là où le bât blesse, c'est qu'ils sont censés justement encourager ces élèves, faire en sorte que ça se passe pour que la majorité silencieuse puisse étudier dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, au contraire, ils soufflent sur les braises et ils les amènent à ce qu'une minorité, parce que tout à l'heure on en parlait avec Joseph, c'est une petite minorité à Sciences Po. Hein. C'est pour ça que je regrette qu'on jette l'anathème, entre guillemets, sur l'ensemble des étudiants qui, comme ce jeune homme qui a témoigné chez Pascal Pro, ne demande qu'à travailler, et c'est qu'on jette l'anathème sur la majorité par une petite minorité. Et ce qui est terrible dans la situation qu'on vit dans notre pays, et que personne ne rappelle à l'ordre, et notamment la ministre de l'Enseignement supérieur n'a pas rappelé à l'ordre, et le directeur a capitulé. C'est ça qui est terrifiant.
Comment est-ce que vous expliquez cette situation?
Écoutez, je l'idéologie. Je pense que vraiment, il y a une idéologie qui est aujourd'hui colonisée.
On se met à plat devant...
On se met à plat, on capitule face à une quarantaine de jeunes qui ont bloqué l'université et quelques énergumènes à l'extérieur qui ont été rejoints par Révolution Permanente et les groupuscules liés à LFI. Je trouve ça dramatique pour notre pays et je trouve ça dramatique pour l'autorité.
Et c'est généralisé. Et là, en l'occurrence, avec cette école
on a donné un très très mauvais signal en capitulant
on donne
avec
des mauvaises idées.
Voilà. Oui, au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, l'administration Biden justement sanctionne à Columbia, sanctionne dans d'autres universités américaines toutes les dérives. Et d'ailleurs, ce qui est frappant, c'est le communiqué du Hamas. Qu'est-ce que dit en substance le communiqué du Hamas? Il s'insurge. Quel scandale contre le sort réservé aux étudiants pro-palestiniens dans les universités américaines. Et en revanche, évidemment, il trouve que ce qui est fait dans les universités françaises est très bien. Le Hamas. Le Hamas. Donc, le Hamas soutient l'action de LFI, c'est normal. LFI soutient l'action du Hamas, puisque LFI est devenue la branche politique du Hamas.
Mais aujourd'hui, même en disant ça, est-ce que c'est un marqueur? C'est-à-dire que vous allez convaincre qui? Moi, vous allez me convaincre en me disant que c'était insupportable, et sans doute les gens qui nous écoutent sur Europe 1, et puis d'autres qui sont là en train de manifester, et c'est les mêmes là qui sont allés aujourd'hui à la Sorbonne, vont être encore plus entraînés, encore plus pris dans cette inertie, dans cet engrenage absolument infernal, pour continuer. Et je le disais tout à l'heure à Georges Fenech et à Paul Melun, et je citais le Christ en disant est-ce que seulement ils savent ce qu'ils font, en fait, tout simplement. Est-ce qu'ils sont totalement conscients de ce qu'ils font?
Ils savent ce qu'ils font, c'est-à-dire que c'est une minorité qui veut Joseph absolument Mazzesca. Le chaos, parce qu'ils savent très bien que sociologiquement, du point de vue électoral, ils ne seront jamais majoritaires, jamais, jamais, ils ne sont pas majoritaires.
Donc ils surfent ni dans les esprits,
ni dans les urnes, ils ne sont pas majoritaires, et la seule chose qu'ils veulent, évidemment, c'est introduire le chaos.
Exactement, je rejoins ce qui vient d'être dit. Et les filles, ce qu'ils veulent, c'est le chaos, c'est la révolution. D'ailleurs, rappelez-vous, pendant les émeutes de juin 2023, ils n'ont pas rappelé au calme. Au contraire, ils ont appelé à ce qu'il y ait encore plus d'émeutes. Et ils ont même parlé à la place des émeutiers en laissant penser que c'était pour soutenir Naël, alors que 70% des jeunes qui ont été arrêtés d'ailleurs ne savaient même pas qui était Naël, si je puis dire. Oui. En fait, ce qui me gêne, je vais vous dire les choses.
C'est ce qu'a dit Éric Nolot dans son livre sur Mélenchon.
Totalement.
Il dit qu'en fait, LFI et Jean-Luc Mélenchon en premier n'en a que faire de ce qui se passe au Proche-Orient. Ce qu'il veut, c'est l'électoralisme et gagner la prochaine présidentielle.
J'ai eu un jour une longue conversation, un tête-à-tête chez moi, avec Jean-Luc Mélenchon.
Et il y a longtemps
Oui, c'était longtemps, c'était juste après...
parce que sinon, il y a un scoop.
Non, c'était juste après c'est un peu après son échec, et déjà, il se demandait s'il allait se représenter à la présidentielle. Mmh. Il s'est en effet représenté, bien. Et il sait très bien, au terme de cette conversation, il apparaissait vraiment très bien, qu'il sait, en dépit de toute la vulgate sur le thème « j'ai perdu à 100 000 voix près, 200 000 voix, 300 000 voix », il sait très bien qu'il n'est pas majoritaire dans le pays, il le sait. Mais ce qu'il veut, et c'est ce qu'il m'a dit plusieurs fois, c'est qu'il veut écrire une page définitive dans l'histoire de la gauche française.
Et pour ça, il est prêt à tout.
Et pour ça, je pense qu'il est prêt à tout.
Y compris à marabouter des étudiants de la Sorbonne, de Sciences Po et d'autres universités.
Ça ne le dérange absolument pas, vous savez. C'est-à-dire qu'il revient à ses premières amours, c'est-à-dire à ses amours trotskistes. Et encore, dans le trotskisme, pardonnez-moi, je fais une différence, c'est-à-dire il vient de la branche du trotskisme le plus dur, c'est-à-dire ce qu'on appelle le lambertiste, qui a été fondé par Pierre Lambert. Voilà. Donc il revient tout simplement à ses premiers amours.
Naïma M. Fadel et Joseph Massescaron nous accompagnent jusqu'à 21h dans Europe 1 Soir. Dans un instant, le journal permanent avec Maëlle Hassani. Et puis, je vous signale que juste après, nous recevrons Dora Mouto et Marguerite Stern pour Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre. Juste avant, je vous signale que demain, vous avez rendez-vous à 8h10 avec Sonia Mabrouk pour la grande interview Europe 1 CNews. Et l'invité sera le vice-président de l'Assemblée nationale et député RN du Nord, Sébastien Chenu. Le journal permanent, j'imagine que c'est maintenant 20h30, presque. Maëlle Hassani, bonsoir.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Gérard Depardieu sera jugé en octobre prochain devant le tribunal correctionnel. L'acteur de 75 ans était en garde à vue aujourd'hui. Il était interrogé sur deux faits d'agression sexuelle présumée qui remonteraient à 2014 et 2021. Le comédien est également mis en examen pour viol et agression sexuelle depuis 2020 dans un autre dossier. Le seul suspect du meurtre du jeune Matisse à Châteauroux ce week-end a été présenté à un juge aux côtés de sa mère, également soupçonné d'avoir violenté la victime. Le tueur présumé est âgé de 15 ans, tout comme Matisse. Il est d'origine afghane. Une dispute aurait éclaté avant le drame, mais on n'en connaît pas précisément les raisons pour le moment. Une minorité de radicalisés appelant à la haine antisémite ne peuvent pas dicter leur loi à l'ensemble de la communauté éducative. Les mots de Valérie Pécresse après le blocage de Sciences Po Paris par des militants pro-Gaza la semaine dernière. La présidente de la région Île-de-France suspend les financements prévus par la région pour le prestigieux établissement. Aujourd'hui, l'université de la Sorbonne a été bloquée à son tour par des militants pro-Gaza. Ils ont été évacués sans difficulté par les forces de l'ordre. Une délégation du Hamas devait se rendre en Égypte aujourd'hui pour discuter du nouvel accord de trêve mis sur la table par les négociateurs dans le conflit au Proche-Orient. Selon la diplomatie britannique, un cessez-le-feu de 40 jours à Gaza est proposé en plus de la libération de milliers de prisonniers palestiniens en échange de la libération d'otages israéliens. Et puis une mauvaise nouvelle pour l'équipe de France de football, le gardien de but titulaire Mike Maignan est blessé à l'adducteur droit. On ne sait pas combien de temps il sera indisponible, mais c'est assez inquiétant à un peu plus d'un mois de l'Euro en Allemagne.
Merci Maëlle Hassani pour le journal permanent, 20h30 sur Europe 1.
Europe 1 soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve.
Nous sommes ensemble jusqu'à 21h et je reçois Marguerite Stern et Dora Mouto. Bonsoir à toutes les deux.
Bonsoir.
Auteur de Transmania aux éditions Magnus, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre, comme un peu Caroline Eliachev que je recevais il y a quelque temps dans ce studio. Elle, sous l'aspect psy, vous alertez sur les dérives de cette idéologie, ce que ça coûte, les conséquences, les retournements de situation et surtout, j'allais dire, l'environnement, quoi, le lobbying très très performant, il faut le dire, auquel les patients font face. On est très très loin, en fait, d'un homme qui, tout simplement, veut porter des jupes et porter des talons aiguilles, Dora Mouto.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on essaye de faire passer ça pour une lutte d'une toute petite minorité qui voudrait avoir plus de droits, mais en réalité il s'agit d'un véritable lobby où il y a énormément d'argent injecté. Il y a LGBT Funders, qui est un groupe de philanthropes qui a publiquement publié ces chiffres, et donc ils ont investi 36 millions en 2021 pour faire avancer les revendications transgenristes, dont la notion d'autodétermination, pardon, c'est quand on décide, voilà, de juste aller à la mairie et de changer de sexe de façon juste déclarative, sans suivi psy, sans passer devant un juge. Le sexe devient une simple déclaration.
Donc ça, ce sont des mécènes français, parce qu'on avait connaissance des mécènes américains.
Ce sont des mécènes américains.
Qui sont, vraiment, il y a presque une idéologie, c'est-à-dire qu'un mécène en entraîne un autre en disant « Attends, mais tu ne cotises pas pour cette caisse qui pourtant est fondamentale pour l'avancée de l'humanité ». C'est ça, en fait.
Oui, tout à fait.
Avec des noms absolument hallucinants.
Oui, avec certaines assos qui s'appellent Human Rights Campaign, qui en fait vont pousser l'idéologie transgenre au sein des entreprises. Mais alors, ça se cache derrière des noms comme ça, qui ont l'air inoffensifs.
Oui, qui ont l'air inoffensifs. Et alors, on suit Robert. Oui. Alors, Robert était un personnage de fiction, Marguerite Stern, ou est-ce que c'est un vrai Robert, 65 ans, dans les assurances?
Alors, juste pour expliquer un tout petit peu aux lecteurs qui ne comprennent pas, enfin aux auditeurs.
Parce qu'il y a beaucoup d'informations, puis en plus, en même temps, comme un fil rouge, on suit Robert dans ses pérégrinations.
Il faut expliquer la façon dont on a construit ce livre, et justement...
Parce que c'est très drôle, en fait, c'est terrible, mais c'est très drôle.
Merci.
Quand on suit
justement,
Robert,
justement, en fait, on a fait un livre où, voilà, c'est très dense en termes d'informations, et donc pour alléger un petit peu voilà, la lecture, on a voulu introduire comme ça une trame narrative, donc effectivement avec ce personnage qui s'appelle Robert, qui est un personnage de fiction mais inspiré de faits réels, et donc voilà, le livre commence sur l'histoire de Robert qui annonce à sa femme...
Qui a écrit les passages en italique sur Robert?
Toutes les deux.
Toutes les deux.
Ouais.
Chantal, ça oui. fait longtemps que je garde un secret, et à l'aube de nos 40 ans de vie commune, j'ai besoin de te l'avouer. Je suis une femme, je me suis toujours sentie femme, je suis enfermée dans un corps qui n'est pas le mien. Je vais juste lire le début parce qu'il y a des passages assez trash quand même avec
Bien
Robert.
Sûr. Hein. Oui, parce que Robert...
Quand il met les bas de contention, enfin en tout cas les bas en nylon déjà, ça le met dans tous ses états.
Mais Robert, c'est un homme autogynéphile, donc qui est sexuellement excité par l'idée d'être une femme, et dans ce livre en fait, on décrit toutes les... Enfin, dans la première partie en fait, on décrit voilà, qui transitionne, quand, comment, pourquoi, et donc certains des profils des personnes qui transitionnent, et c'est un tabou, mais on a voulu lever ce tabou, voilà, ce sont des hommes donc autogynéphiles, sexuellement excités par l'idée d'être une femme, et donc c'est le cas de ce personnage de Robert. On nous le reproche un petit peu parfois, ses traits d'humour, donc on est contente si vous avez trouvé ça drôle.
Moi j'ai trouvé ça drôle, mais je ne fais pas partie des militants qui vont vous jeter des tomates, et quand je dis des tomates, c'est peut-être un peu plus, qui vont peut-être vous séquestrer. Ou vous, Caroline Eliachef me racontait honnêtement qu'à la sortie de son livre avec sa co-auteure, ils allaient faire des signatures dans des villes, et il a fallu faire venir les CRS parce qu'elles étaient limite enfermées dans une librairie.
Bah, on s'est fait agresser ce matin dans la rue.
Vous pouvez raconter ?
Ben oui, tout d'un coup, on est sorti d'un café. Il y a deux personnes qui ont commencé à hurler « La transphobie tue » quand on est passé devant. Marguerite Stern s'est mise à filmer la scène par peur, tout simplement, parce qu'on a tout le temps peur d'être agressé. Et,
vous allez finir par avoir une GoPro sur la tête.
Hein. Oui, il est fort possible. Et donc, une jeune femme a commencé à menacer Marguerite de la taper.
Mmh.
Voilà.
Bon, ben, ça commence bien.
Et ce qu'il faut... comprendre, c'est que voilà, ce livre, en fait, on le sort dans ce contexte-là. C'est-à-dire que nous, en fait, on vient du milieu féministe de gauche. Ça fait 4 ans qu'on a décidé de parler sur ce sujet, d'essayer d'alerter, en fait, le milieu féministe, la gauche, enfin voilà, sur les dérives.
On peut le dire, vous, Marguerite, vous êtes une ex-fémène.
Ouais, je suis une ex-fémène. Et donc,
qu'est-ce qui vous a fait, bah, pour le coup, vous avez changé d'avis aussi, d'une certaine manière.
Sur quoi ?
Vous êtes une fémène, mais vous n'êtes pas une fémène militante en arrivant toute nue dans un studio, par exemple.
Non, moi, j'ai été fémène. Voilà,
vous voyez l'idée qu'on se fait des fémènes.
Oui, ouais, moi, c'était il y a longtemps, de 2012 à 2015. Bon, je renie rien.
Il y a longtemps, presque.
Je renie rien de cette période-là, mais oui, voilà, ce que je voulais dire juste avant, c'est que, en effet, enfin, on sort ce livre dans un contexte de violence. Nous, ça fait 4 ans qu'on subit du harcèlement de la part du monde féministe, qui à un moment, en fait, nous, on était en train de devenir toutes les deux des petites égéries au sein du féminisme. On aurait pu faire carrière, on avait nos portraits dans Le Monde, dans Libération. Dora gagnait très bien sa vie avec des contrats. Et puis finalement, à l'intérieur du féminisme, on a commencé à nous dire que être une femme est un ressenti, qu'on peut changer de sexe. Et en fait, nous, on a décidé voilà, de s'opposer à ça. Ça nous a beaucoup coûté. Ça fait 4 ans que ça nous coûte beaucoup. Et donc, on sort ce livre voilà, dans un contexte de violence, de harcèlement permanent.
Moi, j'ai lu quelques passages. Il y a les 10 commandements qu'il faut absolument lire. Pardonnez-moi d'être sensible à ça, mais le 9e commandement, c'est quand même « Les enfants, tu vampiriseras », parce qu'on explique que les enfants, en fait, c'est l'avenir, puisque c'est toute une génération de la suite. Et un peu plus tard dans le livre, vous parlez du documentaire qui a été projeté, je crois, sur Arte.
Sur
le petit Sacha, voilà. 3 ans, qui est un garçon.
Oui.
Mais en gros, je fais un raccourci ultra rapide, mais vous dites que c'est sa mère qui a décidé que ça serait une fille, quoi. C'est ce qu'on ressent dans le documentaire que moi-même j'ai vu. Hein, donc
on ne dit pas vraiment les choses comme ça. Simplement, on s'interroge sur le fait que voilà, aujourd'hui, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé, des parents brandir leur enfant trans comme un trophée, comme si tout d'un coup, ils venaient de trouver un sens à leur vie.
Vous dites que la mère parle tout le temps, ce qui est vrai, dans le documentaire, et que Sacha parle peut-être, fait 10 phrases conjuguées dans tout le documentaire.
Oui, et pourtant, toute la presse avait titré en disant que c'était un documentaire documentaire fantastique sans se poser aucune question de fond. Et justement, Arte, pour essayer de contrer notre livre, vient de remettre le documentaire disponible sur YouTube. Donc je vous invite à aller le voir, mais avec un sens critique après avoir lu notre livre.
Oui, et surtout justement, les enfants, c'est une grande préoccupation dans votre livre.
C'est une grande préoccupation et on s'aligne totalement avec le projet porté par le groupe sénatorial des Républicains pour interdire les transitions médicales des enfants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans notre pays, dans nos hôpitaux en France, on donne des bloqueurs de puberté à des enfants sur une durée de 6 ans, alors que normalement, l'ordonnance de ces médicaments-là ne prévoit pas qu'on puisse les administrer pendant plus de 2 ans. Et donc, ça va avoir des conséquences graves sur la santé des enfants, destruction du squelette, destruction du cerveau. Et puis, ça fait d'eux des eunuques à l'âge adulte. Certains pays ont fait marche arrière, hein, comme la Suède, la Finlande, qui qualifient aujourd'hui ces transitions médicales sur les enfants d'expérimentation médicale sur enfants. On aimerait que ça cesse en France rapidement.
Il y a même le mot, moi, ce qui m'a frappé, le même le mot cobaye, qui était employé. Ouais. Hein. En Suède.
J'allais vous dire que Naïma et Joseph vont pouvoir intervenir dans un instant. Je voulais juste encore deux petites questions. D'abord, une remarque. Et pour revenir aux enfants, puisque vous dites que la circulaire Blanquer autorise également les enfants transgenres à utiliser les toilettes, les vestiaires et les dortoirs de l'internat du sexe opposé.
Oui.
Cela veut dire que les filles peuvent se retrouver face à des zizi dans les espaces qui leur sont réservés. Bon, ça déjà, ça vous met froid dans le dos.
À l'adolescence, oui.
Et ensuite, pour terminer, et ensuite je laisse la parole à Joseph et à Naïma, puisqu'ils sont également interrogés sur votre livre, vous parlez du féminisme. Vous dites qu'il a perdu pied avec la réalité. Et il y a cette phrase de Simone de Beauvoir qui est, j'allais dire, librement interprétée et malheureusement, sur le fait qu'on ne naît pas du verbe naître, on ne naît pas femme, on le devient.
Oui.
Dora Mouto.
Sauf que dans le reste de la phrase, parce qu'il y a une suite à cette phrase-là, elle parle de la biologie des femmes. Donc en fait, cette phrase est instrumentalisée par les transgenristes lorsque cette phrase ne dit pas que n'importe qui, notamment un homme, ne peut. Enfin non, elle ne dit pas qu'un homme peut devenir une femme.
20h40, on marque une pause sur Europe 1 et dans un instant, justement, Transmania vu par Joseph Massescaron et Naïma Elfadé. À tout de suite.
Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko.
Bon réveil avec Europe 1, au programme ce matin.
Bienvenue et bonjour Gérard Larcher.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Et merci de votre présence.
C'est le son qui a marqué l'actualité cette nuit. Au moins 3 explosions comme celle-ci entendues dans le centre de l'Iran.
La question de l'autorité est posée depuis si longtemps qu'il est largement temps de passer des intentions aux actes.
Les faits, c'est quoi ? C'est une jeune fille qui ment, qui dit qu'elle a été agressée, qu'elle a été violentée par un enseignant, donc clairement qui lui met une cible dans le dos.
La violence, la faute à qui ? Aux parents, oui, débordés ou qui laissent faire.
2 387 000 à écouter Europe 1 tous les jours. Merci, encore merci de votre fidélité. À demain matin, 7h-9h sur Europe 1.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque ? Non ? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel, prise de poids rapide, pieds et chevilles gonflés, fatigue excessive. Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie. Entre passé et présent, héritage culturel et création contemporaine, l'artiste Jiang Chong-er réinterprète les traditions chinoises millénaires au musée Guimet. Des installations monumentales et spectaculaires, une réflexion visionnaire sur le temps, un parcours sensoriel et spirituel comme un pont entre la France et la Chine. Gardien du temps à découvrir dès maintenant au musée Guimet avec Europe 1.
Europe 1 soir.
19h-21h, Pierre de Villeneuve.
Dora Mouto et Marguerite Stern sont les invités d'Europe 1 pour Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre chez Magnus. Joseph Massescaron.
Je crois que, au sens étymologique du terme, au sens premier, votre livre est un livre salubre. Quand j'ai vu que vous paraissiez, ça, vous avez ce courage, alors je suis sur Twitter, hein, Marguerite, et elle en a pris tellement, mais pendant un temps, mais fou, quoi, pour oser dire un certain nombre de choses sur sur la biologie, sur un certain nombre d'éléments, et là le livre paraît et je dis en fait, je vais vous dire à quoi ça m'a fait penser. L'action, votre action de faire de publier ce livre, pour moi, relève de la même action. Quand Denise Bombardier est sur le plateau de Pivot,
ah oui,
face
très bien
à Mazenef,
ah oui,
et devant tout le monde, ouais, 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 elle dit ce qui est, c'est-à-dire la pédophilie, ouais, et qui est
et il y a Gabriel Mazenef juste en face, ouais.
Gabriel Mazenef, ouais, et qui est accepté moquée, par, hein, tout le monde, voilà.
Ouais. Ouais.
Et vous avez et Denise Bombardier qui l'a payé, c'est vrai, le prix fort. Et à mon sens, votre action relève exactement du même défi. Vous savez, il y a un vieil axiome de Port-Royal qui dit, qui est la mère Arnaud, qui est la sœur de Pascal, qui dit quand les évêques ont des courages de femmes, les femmes doivent avoir des courages d'évêques. Et ben là, on y est. On est en plein dedans. C'est-à-dire, vous avez le courage de ça. Et alors, vous avez, enfin, d'autant plus que, enfin, ce qui peut paraître bizarre, c'est que vous l'avez relevé, notamment en Suède. La Suède, en 1972, reconnaît la question, oui, transgenre. Et la Suède n'a cessé dernièrement de revenir progressivement dessus, parce que, notamment, il y a les travaux d'Angela Samford, qui est une, ouais, pédopsychiatre mondialement
vous
reconnue.
Vous connaissez bien le sujet.
Voilà, ouais, qui a dit au secours, au secours. Alors, en plus, je connais ce sujet, je dois le dire pour par honnêteté aux personnes qui m'écoutent, je suis homosexuel. Voilà. Donc j'ai des enfants, je suis homosexuel. Donc ces questions-là sont terribles, parce que je considère en effet que cette idéologie transgenre est une menace pour tout le monde, hétérosexuel, homosexuel, lesbienne, enfin pour tout le monde, pour tout le monde. Donc c'est quelque chose qui est. Je parle de l'idéologie. Ouais. Je ne parle évidemment pas. Pardonnez-moi. Après je j'arrête. Je ne parle pas évidemment du ressenti et de la tragédie que ça peut être pour des personnes qui se posent de vraies questions
d'identité.
Mais, je termine là, se poser des questions d'identité, ce n'est pas se poser une question identitaire.
Naïma M. Fadel.
Moi, je rajouterais, Dora et Marguerite, que par votre prise de parole forte, courageuse, vous avez libéré la nôtre. Beaucoup de gens comme moi n'osaient pas parler de ces questions-là parce qu'on ne se sentait pas autorisé. Moi, j'avais été une fois choquée où j'étais sur un plateau, radio, je ne dirais pas laquelle, où on a parlé du petit garçon qui se faisait appeler Lily, oui, et que la maman trimbalait sur tous les plateaux.
Oui.
Et tout le monde était en extase. Et on n'avait pas le droit de s'interroger de cet enfant qui devenait un enfant, je ne sais pas, comme un sage savant, qui, oui, était là à
le
dire
cirque.
Oui, ben moi je me sens. Au cirque, voilà. Oui, je me sens fille. Et c'est vrai que la maman parlait beaucoup. Et il y a eu des tas de reportages sur cette maman et ce petit garçon, parce, oui, que c'est un petit garçon.
Oui.
Et c'était, oui, terrifiant. Et je vous assure que je me disais, mais finalement, on est dans deux mondes qui s'opposent. On a le monde, excusez-moi de le dire ainsi, mais je le pense, un monde de bobos repus, de gens qui sont des nantis. Et qui sont dans des espèces de caprices, excusez-moi de le dire ainsi, puis l'autre monde, de la France peut-être d'en bas, qui s'interroge, mais qu'on ne laisse pas s'interroger.
Oui.
Donc je suis très heureuse de vous rencontrer, parce qu'effectivement, grâce à vous, vous nous donnez des éléments de compréhension, et quelque part vous nous confortez, c'est qu'on a le droit de s'interroger.
Oui, on a le droit aussi d'avoir une liberté d'expression et d'information qui malheureusement est très menacée.
Et je voudrais rajouter aussi, si vous me permettez, c'est que ce qui me fait très très beaucoup de peine, c'est qu'aujourd'hui on vous empêche dans votre liberté. C'est qu'aujourd'hui vous êtes menacée. C'est qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas vous déplacer sans être inquiétée. Et on est en France. On est en France, le pays de la liberté. Je vous le dis avec émotion. Vraiment, ce pays de la liberté, où la liberté a une valeur sacrée de la République, et on ne vous permet pas cette liberté, et ça me fait beaucoup, beaucoup de peine.
Dora et Marguerite.
Moi, je.
Marguerite,
déjà, je vous remercie infiniment, vous, d'avoir qualifié
Joseph,
notre.
Joseph.
Oui, d'avoir qualifié notre livre.
Joseph, oui.
notre, pardon. Notre livre de salubre, parce qu'on l'a vraiment fait dans cette optique-là. En restant droite dans nos bottes, en essayant de dire la vérité, en essayant de léser personne, en essayant d'être juste. Et puis, je vous remercie, Naïma, aussi infiniment, parce que. Vous avez décrit exactement ce qu'on voulait faire avec ce livre, c'est-à-dire qu'on a constaté que beaucoup de personnes se posent des questions, s'interrogent, mais malheureusement n'ont pas la documentation nécessaire parce qu'une grosse partie de la documentation en fait est écrite en anglais. Donc là, c'est difficile. Et donc, ce qu'on a voulu faire avec ce livre, c'est vraiment un livre grand public en fait, parce qu'il existe en France certains livres de spécialistes sur la question, mais qui sont beaucoup plus difficiles à aborder. Et donc, avec ce livre, on a vraiment voulu faire ça. Un livre grand public qui donne les clés aux personnes qui s'interrogent, qui donne des arguments, qui donne des réponses. Voilà.
Voilà. Et on a beaucoup de réponses, beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup d'informations. Je pense qu'on peut tomber de sa chaise assez facilement quand on lit ce livre. Et puis alors, on rigole beaucoup puisque je suis obligé de vous lire un passage de Robert parce que moi, je l'ai suivi quand même. Le cul nu de Robert colle à la chaise en cuir de son bureau. Une de ses mains dirige la souris de son ordinateur. Avec l'autre, vous imaginez ce qu'il fait. Après s'être enfermé à double tour, il a enfilé une paire de bas en nylon, les mêmes que ceux que portait sa mère, ce qui lui est immédiatement apporter du plaisir. Voilà, je change un peu les mots parce que sinon, voilà. Merci pour cette drôlerie. Merci pour ce livre qui interroge, qui vraiment fait bouger les choses et merci. Qui, de la manière aussi, Caroline Eliachef. Enfin, je sais pas si vous avez lu son livre, mais en fait, elle interroge dans son cabinet de psy tous ceux qui veulent revenir en arrière et qui disent c'est trop tard. En fait.
Oui, voilà. Bien sûr.
Et il y en a qui se jettent par la fenêtre. C'est totalement irréversible. Ça cause des drames. Et quand bien même, il y a des législations. On parlait des pays scandinaves, au Canada, par exemple. Il y a des législations. Les parents ne peuvent même pas s'opposer. C'est-à-dire que voilà, c'est.
Et même en Suisse, apparemment, il y a les services sociaux qui parfois retirent les enfants quand les parents ne veulent pas valider leur identité de genre ou les mégenres, c'est-à-dire donnent le mauvais pronom. Donc c'est très sérieux comme sujet.
Eh ben, on est bien avancé. Merci beaucoup. Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre par Dora Mouto et Marguerite Stern aux éditions Magnus. Merci à vous deux et merci à Joseph Massescaron et Naïma M. Fadel.
Merci.
Le journal permanent à 20h50 sur Europe 1 avant la suite jusqu'à 21h. Dans l'actualité, Gérard Depardieu sera jugé en octobre prochain pour agression sexuelle. D'après le parquet de Paris, l'acteur était entendu dans le cadre de deux enquêtes pour agression sexuelle de deux femmes rencontrées sur le tournage du film Les Volets Verts. Un jeune de 15 ans et sa mère soupçonnés d'être liés à la mort du jeune Mathis tué à coups de couteau samedi à Châteauroux, présenté à un juge cet après-midi. Gabriel Attal, lui, plus tôt dans la journée, entamait ses consultations politiques sur les violences de mineurs. Objectif, apporter des réponses en matière de prévention et de gestion de la délinquance. Le Premier ministre a reçu les Insoumis, dont Manuel Bompard, qui dénonce, lui, une dérive autoritaire du gouvernement. Dans le même temps, la région Île-de-France suspend ses financements à Sciences Po Paris, qui, vendredi dernier, connaissait une manifestation, une perte d'1 million d'euros pour l'école.
Europe 1 soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve.
Avec Top Web, rendez-vous désormais à 9h-10 tous les jours, du lundi au vendredi. Top Web avec ce soir Manon Fossa. Bonsoir Manon.
Bonsoir Pierre.
Alors on va en passer en revue toutes les plus gros succès sur les réseaux sociaux et sur le site Europe 1. Et on commence, je crois, par le site Europe 1 avec les vues sur François-Xavier Bellamy.
Exactement, c'est une thématique de l'actualité du moment Sciences Po que vous avez abordée tout à l'heure d'ailleurs avec le son de Sylvie Retailleau. Et bien la vidéo sur Twitter qui a le plus cartonné en ligne, notamment aujourd'hui, avec 53 000 visites, Pierre, c'est le grand rendez-vous de dimanche. François-Xavier Bellamy, qui était invité de Sonia Mabrouk et qui critiquait justement la position de Sylvie Retailleau par rapport à la direction de Sciences Po.
Je pense que si aujourd'hui cette dérive devait se continuer, plutôt que de soutenir la direction, parce que c'est ce que fait le gouvernement, Sylvie Retailleau remercie l'administrateur de Sciences Po qui a mis en œuvre cet accord de la honte. Plutôt que de soutenir une telle dérive, je crois que le gouvernement devrait au contraire stopper les financements publics à Sciences Po, parce qu'on ne peut pas financer une école qui est devenue le lieu d'un entrisme mélangé de gauchisme et d'islamisme qui légitime des propos antisémites et des actes de violence.
Voilà, donc.
Beaucoup de visites, hein, 53 000 visites, beaucoup de réactions,
sur
de
X,
commentaires.
Hein, c'est ça.
Exactement, sur
ouais.
X. Un sujet qui fait donc beaucoup réagir en ligne aussi. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez réécouter l'intégralité du replay du Grand Rendez-vous sur le site d'Europe1.fr.
Il y a également la Libre Antenne qui cartonne.
Exactement, un témoignage de la Libre Antenne donc qui fonctionne particulièrement bien sur Instagram cette fois, Pierre. Est-ce que vous voyez le film Frères avec
Tout
Mathieu Kassovitz et Yvan Attal? Il est sorti le 24 avril. C'est une histoire vraie entre deux frères qui ont survécu seuls pendant 7 ans en forêt après avoir été abandonnés. Eh bien, l'un d'eux, Michel de Robert, il est venu dans nos studios tourner une vidéo au micro d'Olivier Delacroix et il est revenu sur son histoire complètement dingue.
Évidemment, les premiers jours sont excessivement difficiles. La souffrance la plus épouvantable, c'est le froid.
Le froid.
Le froid, c'est terrible, terrible, terrible.
Ouais.
Et ça va beaucoup plus loin parce que on développe un amour entre nous deux qui est très important.
Bon, je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez l'intégralité de ce témoignage, il est sur le Instagram d'Europe 1 et également sur notre site internet.
On termine par des infos d'Europe 1.
Exactement, on passe avec les papiers les plus visités aujourd'hui sur le site d'Europe 1. Eh bien, c'est cette info Europe 1 de notre journaliste police-justice Jean-Baptiste Marty qui a cartonné, il faut le dire. Donc, il nous apprend, Pierre, qu'une dizaine de policiers sont visés pointés du doigt sur l'application Waze. Alors, vous savez, Pierre, cette icône de police qui sert à indiquer les radars sur l'application.
On dirait un peu à Mario Bros avec un petit moustachu avec
exactement,
une casquette.
Exactement,
voilà, simplement
si vous
c'est
voulez.
Les flics. Voilà.
Voilà, c'est la police. Et bien, des policiers se sont rendus compte qu'ils apparaissaient aussi sur les lieux de leur domicile.
Et ouais.
Donc là, des données qui deviennent accessibles au grand public, évidemment, ça pose problème. Évidemment, ils sont potentiellement en danger, ces fonctionnaires. Donc Jean-Baptiste Marty, dans cet article, il nous apprend que les policiers ont déposé plainte et que là, Unité Police, le syndicat, attend des mesures de protection. Donc vous pouvez aller le lire sur le site internet, c'est une info maison.
Et également Pascal Praud avec les mariages couplés, si j'ose dire.
Oui, alors ça a cartonné. On en parlait déjà vendredi dans l'émission Pascal Praud et vous de 11h à 13h. Deux sœurs, Virginie et Aurélie, qui avaient témoigné parce qu'elles avaient décidé de se marier le même jour, au même endroit, dans les Côtes d'Armor. Donc un double mariage, si on peut dire ça comme ça. Donc elles étaient venues expliquer ça. Et puis il se trouve qu'elles se mariaient ce week-end, Pierre. Donc aujourd'hui, elles sont revenues raconter ça.
Se marier toutes les deux, mais pas avec le même homme.
Ah non. Non, pas avec le même homme. C'était un mariage à quatre, mais chacune son mari. Voilà, chacune son mari. Donc, elles sont revenues aujourd'hui pour témoigner au micro de Pascal Praud de comment s'est passé le mariage. Visiblement, ça a été merveilleux. Je vous invite à venir écouter le replay sur le site d'Europe1.fr.
Merci Manon Fossat pour justement ce tour d'horizon des réseaux sociaux Top Web sur Europe 1. Et rendez-vous, ça c'est aussi un nouveau rendez-vous d'Europe 1 Soir. On va avoir toutes les têtes d'affiche d'Europe 1 qui vont défiler dans mon studio vers 9h-5 comme ça pour vous dire ce qui va se passer le lendemain dans leur émission. Bonsoir Dimitri Pavlenko.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Alors au programme de la matinale du 7-9 demain.
Eh ben la une d'Europe 1 matin demain. Alors on va parler d'abord on parlera des écrans puisque une commission écran va restituer son rapport. Ce rapport qui a été restitué hier soir dans lequel se dessinent des pistes pour bien lutter contre ce fléau des écrans dans les mains des petits enfants. C'est très très difficile pour les parents d'arriver à les en décrocher. Alors comment faire? Ce sera l'un des sujets qu'on évoquera. On viendra aussi sur ce qui s'est passé à Sciences Po la semaine dernière, cette mobilisation pro-palestinienne, comme on dit, et qui s'est étendue donc hier du côté de la Sorbonne. On en parlera parce que ces événements sont extrêmement révélateurs d'un climat politique qui s'est installé dans nos universités. Révélateur aussi de l'axe qui a été choisi, l'axe de campagne qui a été choisi notamment par la France Insoumise qui a littéralement mis la main sur ces mouvements pro-palestiniens dans les universités. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, c'est une petite minorité qui est à la manœuvre dans les universités comme à Sciences Po. Malgré tout, cette minorité est extrêmement bruyante et elle impose un tempo politique. Et donc, évidemment, on en parlera demain matin.
Et puis, comme tous les matins, à 7h10, un témoignage. Dimitri, qui est-ce que vous avez demain?
Eh ben, l'invité d'Europe 1 matin, ce sera en lien avec ce que je vous disais à l'instant sur Sciences Po, Pauline Condomine. Pauline Condomine, elle est journaliste. Elle a, pour le magazine Livre Noir, mené une infiltration pendant près de 6 mois dans les milieux d'extrême gauche. C'est une enquête absolument passionnante. Elle a pris des risques personnels assez importants quand même pour rapporter ces informations. Mmh. Et alors, ce qui est intéressant, c'est ce qu'elle, vous entendrez de ce qu'elle dira des événements de Sciences Po. Parce qu'elle, à Sciences Po, ce qu'elle a vu, ce ne sont pas des étudiants qui spontanément se mobilisent par émotion pour la souffrance des Palestiniens. Certes, il y a des étudiants qui sont touchés par ce que vivent aujourd'hui les Palestiniens. Non, ce qu'elle a vu surtout, ce sont des militants très actifs du collectif Urgence Palestine. Mmh. Et alors là, ce sont des gens qui défendent un agenda qui est tout autre, qui n'est pas celui de la défense de Gaza, la défense des Palestiniens. Non, non, l'agenda de ces gens-là, c'est la destruction d'Israël. Pauline Condomine donc sera demain à 7h10 l'invitée d'Europe 1 Matin et elle nous racontera donc ce qu'elle a vu du côté de Sciences Po ces derniers jours.
C'est bien noté Dimitri, allez vite vous coucher. Merci beaucoup pour cette apparition dans Europe 1 Soir et comme tous les soirs justement nous aurons des têtes d'affiche d'Europe 1 qui nous raconteront le programme du lendemain. Ma chère Marlène Duret,
oui.
Voilà de retour et la pluie elle également fait son retour dans les Pyrénées-Orientales qui sont en sécheresse depuis environ quoi, 2 ans, hein, c'est ça ?
C'est exactement
et
ça.
Et ça va durer encore quelques jours, du coup.
Oui, alors, les modèles se contredisent déjà, Pierre, à 2 jours. Mais bon, on attend quand même un bon passage pluvieux demain matin et mercredi, dans le Roussillon, qui enregistre 22 mois déficitaires en précipitations, et seulement 5 mois proches des normales ou excédentaires, dont le mois de mars 2024. Et c'est vrai que l'épisode Cévenol de ce week-end a fait du bien. Moi, ce que j'aime bien avec l'épisode Cévenol, c'est que les pluies sont faibles et durables. Contrairement à l'épisode méditerranéen, où on a des pluies plus intenses, souvent...
Et qui font des dégâts.
Exactement, elles sont souvent orageuses, des cumuls de pluie en très peu de temps, et ça n'enraye en rien la sécheresse. Voilà. Donc, ce qu'on va retenir pour demain, ce petit front pluvieux qui va donner pas mal de pluie sur l'ouest de la Bretagne, mais aussi sur une bande centrale allant de l'Occitanie, en remontant vers la frontière belge et luxembourgeoise, et ça passe par le Limousin, l'Auvergne, la Bourgogne, une partie du centre-Val-de-Loire, l'Île-de-France et la Champagne. Et puis dans l'après-midi, cette zone de pluie va prendre un caractère plus instable, donc des averses, ça se décale un tout petit peu vers l'est et les pluies les plus régulières, on les retrouvera sur l'ouest de la Provence, la vallée du Rhône, l'est de l'Auvergne et puis ça va poursuivre comme ça vers la Bourgogne-Franche-Comté, les Alpes du Sud bien arrosées et on termine par les températures. Donc pas de grands changements, stationnaires ou en hausse demain avec 13 degrés attendus sur la pointe bretonne, nous aurons 17 du côté de Nevers, de Clermont-Ferrand, Perpignan aussi, 19 à Paris, à Lyon, à Toulouse, à Marseille, 22 degrés à Bordeaux et puis ça peut monter jusqu'à 26 degrés en pleine Alsace où on sera d'ailleurs sous le soleil.
Merci Marlène Duret, on se retrouve demain bien sûr.
Avec grand plaisir.
Et tout de suite c'est la France bouge sur Europe 1 avec Elisabeth Assayac. Bonsoir Elisabeth, quel est le programme ?
Bonsoir Pierre, bien ce soir, peut-être aimez-vous le jambon,
oui,
les entreprises familiales ou encore les entreprises qui s'adaptent en fonction de l'évolution de la société, eh bien vous restez avec nous comme tous les auditeurs d'Europe 1 car je reçois le patron